Bon, alors aujourd'hui, on est recrudesce qui se lève, 5767, et nous allons continuer ce que nous avons commencé déjà la semaine dernière, concernant l'âme d'Israël. On peut considérer que ces cours sont des cours de Emouna, de manière générale, c'est-à-dire des cours, comme on traduit en français, de foi juive, mais la traduction est très limité et loin de la réalité, parce que nous avons déjà traduit la motion de Emouna comme étant un vécu, une réalisation, une certification de la vie juive que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire du divin qui est en nous. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à parler de l'âme d'Israël, de la Neshama d'Israël. Et cette Neshama d'Israël, lorsqu'on vient à en parler, on est obligé de définir déjà que cette âme est une création divine. C'est-à-dire que Dieu a créé une création spéciale, une bria Elohim, une création divine, qui a des qualités spécifiques, intrinsèques, des qualités intérieures, spéciales, qui lui donnent la possibilité de dévoiler le saint, donc la notion de saint dans le monde. Quand je parle de saint, je ne parle pas de sainteté. Okay? La sainteté, c'est déjà quelque chose qui subit. Alors que le saint, c'est la racine, c'est la source. C'est ainsi qu'on traduit à Kadosh Baruch Hu, une fausse traduction, pas le saint béni soit-il, okay? Mais la source même, c'est-à-dire lui-même, pas qu'il a subi une sainteté, mais qu'il est lui-même la source du saint. Donc on ne peut même pas dire en hébreu Hakadosh Baruch Hu, c'est déjà une faute, puisque ce terme vient du Zohar, qui dit Kutcha Baruch Hu. Autrement dit, le Kodesh Baruch Hu et pas le Kadosh. Grande différence entre Kadosh qui est subir la sainteté et Kodesh qui est la source de la sainteté. Donc le Zohar est très précis, Dieu, dans la définition qu'on ne peut pas lui définir, mais quand on parle du Kodesh, on parle Kutcha Baruch Hu, donc à Kodesh Baruch Hu, donc la source même de la sainteté, et pas la sainteté elle-même, qui est déjà quelque chose du deuxième degré. Pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire l'Agdis ? Non, en hébreu, l'Agdis, c'est autre chose.
Oui, c'est
ça. Non, en hébreu, non, ça n'a aucun rapport. L'Agdis en hébreu, c'est donner à quelqu'un quelque chose, c'est-à-dire prévoir pour quelqu'un quelque chose. Le kadesh, je veux dire. Le kadesh, c'est sanctifié. Baruch atah Hashem, le kadesh à Shabbat. Donc le kodesh, c'est la source de la sainteté, a la capacité de faire descendre le saint pour que le saint vienne se reposer sur un jour. Et donc ce jour-là va s'appeler le Shabbat. Donc le Shabbat va devenir celui qui révèle le kodesh. Et donc, il aura une sainteté, mais lui-même révèle Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Kodesh. Et pas seulement Shabbat Hakdosha. Donc c'est pas seulement le Shabbat de sainteté, mais le Shabbat du Saint, béni soit-il. De la même manière, on va définir la terre d'Israël comme étant Eretz HaKodesh. Et non pas Eretz HaKedosha. C'est-à-dire, je traduis en français, ce n'est pas la terre sainte, une fausse tradition, c'est une terre du saint, c'est-à-dire celle qui appartient au Kodesh, donc celle qui appartient à Dieu. Donc c'est ta terre. Quand je dis Eretz HaKodesh, je veux dire en hébreu, Eretz Shel HaKodesh, la terre qui appartient au saint, donc à Kadosh Baruch Hu lui-même. De la même manière, quand je veux traduire le langage hébraïque, qui s'appelle la sonne HaKodesh, exactement pareil. Ce n'est pas la langue sainte, mais la langue qui dévoile le saint, donc c'est la langue du saint béni soit-il. Donc c'est sa langue à lui, à Kadosh Baruch Hu. Et donc on voit que tout est complètement dans la tradition, on perd une trahison, et on est obligé de retravailler toute tradition, celle pour savoir exactement comment les choses se définissent. Donc, nous avons Eretz HaKodesh, nous avons la Shon HaKodesh, Et nous avons Am HaKodesh, la même chose, le peuple d'Israël, ça s'appelle Am HaKodesh, le peuple du Saint. Autrement dit, celui que le Saint, béni soit-il, donc à Kadosh Baruch Hu, a créé et a choisi avec une certaine qualité spécifique qu'il a introduit à l'intérieur de lui pour dévoiler son nom, pour dévoiler ce qu'il est dans le monde. Donc nous avons un rôle spécial dès la création de notre peuple, même au niveau spirituel, avant qu'il y ait encore des vies dans le monde, le Saint béni soit-il a créé une certaine valeur qui va s'appeler Am Israël, donc c'est une âme divine, créée par Dieu, qui va avoir cette capacité de dévoiler le Kodesh dans le monde. Et donc, on est dans la troisième ligne, Amouvan, Amoussad, Am Israël, donc la notion de Am Israël, de peuple d'Israël, c'est une âme spéciale. Hadoma, l'effet de Gdola. On va comparer ça à un grand soleil. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est un grand soleil. C'est même un que, donc à partir de ce grand soleil-là, Mista'afim Revevot Karnaim, il y a des milliers et des milliers de Karnaim, des rayons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je définis ici que le peuple d'Israël n'est pas l'ensemble de ses membres. Écoutez bien ce que je dis. Quand vous parlez du peuple d'Israël, ce n'est pas toi plus 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 moi. Et plus encore quelques millions. C'est pas ça le peuple d'Israël. Ça, ce sont les détails d'Israël. Mais le peuple d'Israël, la notion de Am Israël que les sages nous donnent, ne parle pas de l'ensemble des détails. Elle parle de l'ensemble lui-même, qui est bien avant les détails. Et qui est beaucoup plus grand que les détails.
C'est ce qu'on appelle de l'âme, c'est référence au petit soleil que j'ai inclus au bon, c'est au bon.
Ça veut dire non, là il y a juste une allusion en réalité, parce que l'Assemblée d'Israël est plutôt la lune
en fait,
que le soleil. D'accord ? Donc il ne fait pas référence à ça, c'est lui qui sait ou qui ne sait pas, c'est moi. C'est moi qui ai écrit le texte. D'accord ? Donc, j'ai compris que tu n'étais pas là, donc tu n'avais pas vu. Donc ça fait partie d'un livre que je suis en train d'écrire.
D'accord.
Sur l'âme d'Israël. Donc l'âme d'Israël est plutôt lunaire, que solaire. C'est-à-dire que là, je donne juste un exemple à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un grand soleil qui va donner ses rayons, et les rayons de ce soleil-là, en fait, ce sont tous les individus. Mais tu ne peux pas me dire que le rayon du soleil, il est détaché du soleil. Il n'a pas d'existence. En fait, c'est une mise en détail du grand soleil. J'explique avec d'autres mots un petit peu moins compliqués. Il y a d'abord une âme qui ressemble à une grande lumière. Il n'y a pas encore de juifs dans le monde. Il n'y a pas encore de monde. Il y a une âme d'Israël. Oui. Cette âme d'Israël, comme ce grand soleil, va commencer à envoyer des rayons. En fait, ce rayon, ça va être tous les détails qui sont toi et moi. Mais je ne peux pas séparer en aucun cas les rayons du soleil lui-même. En réalité, les rayons n'existent pas par eux-mêmes. Ils ne sont qu'une branche sortie du soleil, mais c'est le soleil lui-même. Si je venais enlever le soleil, est-ce que le rayon existe?
Non,
ça n'existe pas. Donc, si l'âme d'Israël n'existe pas, il n'y a aucun homme d'Israël dans le monde. Mais, je peux absolument prendre un des détails et l'enlever. Sans pour autant changer la grande lumière initiale.
Une fois qu'un rayon est lancé, on peut plus l'arrêter, même si on enlève le soleil.
Je peux l'arrêter. Non. Je peux couper son accès.
La Torah a bien été renvoyée. Une fois qu'elle a été envoyée, le rayon de la Torah est toujours présent.
Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler d'Israël. Je suis en train de te poser la question. Est-ce qu'un homme d'Israël meurt? Alors, ça veut dire qu'il y a une fin à l'homme d'Israël. Mais est-ce que l'âme d'Israël meurt? Non.
Il y a un nouveau.
C'est ce que je suis en train de parler. Ça veut dire que le détail, lui-même, n'est qu'une mise en détail d'un grand tout. Donc les détails, les juifs meurent, il y a des juifs qui meurent dans le monde, mais le peuple d'Israël, la notion de Am Israël ne peut pas mourir. C'est ça que je veux dire par là. Ça veut dire qu'il y a un vecteur horizontal et un vecteur vertical. Le vertical, c'est de Dieu à nous. Et l'horizontal, ce sont tous les détails. Parmi les détails, il y a des juifs qui sont là et qui un jour ne seront plus là. Mais l'âme d'Israël continue à toutes les générations parce qu'elle descend. Donc quand on parle de peuple d'Israël, encore une fois je résume, je ne parle pas de l'ensemble de ces détails, comme en mathématiques, l'ensemble de détails ne fait pas un enfant, et l'ensemble est beaucoup plus grand que la somme de ces détails. De la même manière, quand on parle de Am Israël, on ne parle pas de la somme des juifs, mais on parle d'une lumière bien plus grande et qui a précédé tous ces détails-là. Chez les nations du monde, oui. Quand je dis, par exemple, le peuple, je ne sais pas quoi, chinois, alors c'est l'ensemble de ces détails. Ce n'est pas une âme chinoise qui précède les détails chinois. Car qui les a formés, ou une terre commune, ou une envie commune, ou quelque chose de commun, une guerre, ou peu importe, ça s'est développé comme ça. Chez nous, ça ne s'est pas développé comme ça. Le peuple ne s'est pas développé de cette manière-là. Le peuple a été créé par une création divine bien avant. Ce n'est pas un ensemble de familles qui s'est rassemblé, qui s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va devenir les juifs du monde. C'est pas ça. Il y a une création qui précède. Résumé. Toutes les nations du monde, leur peuple, oui, c'est l'ensemble de leurs détails. Dans le peuple d'Israël, le peuple n'est pas l'ensemble de ses détails, n'est pas la somme de ses détails, mais une âme divine créée. On va revenir de toute façon sur cette notion-là. Donc, je vais donner la comparaison au soleil, Shemesh Gdola, où il y a des milliers de rayons solaires qui viennent. Nishmat Israël, Hibria, Klalis. Et là, je commence à préciser. L'âme d'Israël est une création collective qui englobe le tout. Et dans le mot Klali, il y a le mot Kol, tout. Hasholachat, qui envoie, donc cette âme d'Israël, cette création-là, d'ensemble, envoie carnet à des rayons, ou mechaya, et qui vont faire vivre ces rayons-là, qui est rivé votre alphé Israël à pratim. Les milliers, les dizaines de milliers et les millions de juifs qui sont sur le monde.
Quoi
c'est qu'on dit ? Carnéa. Au pluriel. Carnéa. A carnaïm, c'est là. D'accord ? C'est rayon et qui fait vivre les millions de juifs individuels qui sont sur terre. Moralité, nous avons une partie individuelle qui est dévoilée, mais à l'intérieur de nous, nous avons quoi ? L'âme collective. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a une âme qui fait partie de ce grand collectif qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Et donc je reçois un rayon de cette âme-là. Atruna Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu Nata de Nishmat Israël. Donc la spécificité que le divin a plantée dans cette âme d'Israël, pourquoi j'emploie le mot planter? Parce que ce que nous disons lorsque nous montons à la Torah, Vechaye Olam Nata Betochenu. La première bracha que tu dis quand tu montes à la Torah, c'est la deuxième bracha, quand tu finis la lecture, c'est que Akadosh Baruch Hu a planté en nous, Chaya Olam, une vie éternelle. Donc elle est en moi, elle est à l'intérieur de moi. C'est comme si maintenant je dois, moi, faire fleurir cette plante qu'Akadosh Baruch Hu a plantée en moi. Qu'est-ce que ça veut dire faire fleurir cette plante? Tout simplement la dévoiler. Dieu m'a mis une graine à l'intérieur de moi. Elle a une capacité extraordinaire. Mais moi, maintenant, en tant qu'homme, je dois agir pour faire développer, dévoiler et certifier cette graine qu'il a mis en moi. D'accord ? Si vous avez des questions, posez-les. Donc, Akadosh Baruch Hu Nata ben Nishmat Israël, il a planté dans l'âme d'Israël, il a tué Agdola. Quand il nous a planté cette lumière-là, elle ne vient pas gratuitement. C'est une lumière qui est tellement forte qu'elle te bouscule en fait. Elle te demande, depuis l'intérieur de ton corps, sans arrêt, ne te laisse pas tranquille. elle te pousse à la dévoiler. C'est comme si elle te parlait du dedans, elle te disait, dévoile-moi. Tu es en train de t'endormir. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Dévoile-moi. Et l'homme d'Israël a tout le temps un feu intérieur qui lui dit, tu ne peux plus te reposer, tu ne peux pas te reposer, tu n'as pas de repos en fait. Il y a une âme qui demande d'être dévoilée. Comme si elle veut sortir de par tous les pores que tu as dans son corps. Pardon ? Tvi'a. La tvi'a, hein, c'est pas un dévoilement en hébreu. Tvi'a, c'est une requête. C'est, je t'ordonne, je te demande, hein, avec beaucoup d'insistance, c'est un tové à mincha, le dalotetit. Dévoile-moi. D'accord ? Oui, tout simplement. Ils ont une âme spéciale créée par Dieu qui a une certaine qualité qui est à l'intérieur de l'homme, sans arrêt me dit dévoile-moi, dévoile-moi, dévoile-moi. C'est-à-dire, je suis venu dans ce monde pour dévoiler cette âme. Et cette âme, c'est un rayon de la grande lumière de l'âme d'Israël. Qui dévoile qui ? Le surcoût qu'elle d'avoir, en fin de compte, Dieu. Okay. Même si ces termes en français nous viennent, mais bon, on est obligé de traduire en français. Parce que Dieu, c'est plutôt grec. Okay. Ça vient de Dieu. Donc on n'a rien à voir avec lui. Okay. C'est pas tout que Dieu. J'en ai rien à faire. C'est pas pour moi l'éternel. Mais bon, tous les mots en français, de toute façon, sont déjà erronés par rapport à l'étude de la Torah. Mais on est obligé d'étudier en français. Donc on est obligé d'étudier comme des boiteux pour l'instant. Okay. Quand on passera à l'hébreu, vous verrez que les définitions sont beaucoup plus claires et beaucoup plus simples. Elles ne s'habillent pas par tous 2000 ans d'exil et beaucoup plus de tout ce qui nous entoure et de toutes les religions païennes qui sont autour de nous. Pour employer des termes qui sont religieux, Dieu, et synagogue, et prière, et je ne sais pas quoi encore. Okay. Mais tous ces noms sont des noms étrangers à la culture d'Israël. Nous, on a oublié de les utiliser, puisque pour l'instant, nous avons ce clé, cet instrument, pour passer ce message.
L'âme d'Israël, c'est mon âme à moi.
Alors, il n'y a pas une différence entre l'âme d'Israël et ton âme à toi, parce que, en réalité, ton âme à toi, c'est un rayon de l'âme d'Israël. Encore une fois, je dis que si on venait à conclure véritablement, les détails n'existent pas. Il n'y a pas de détails dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un tout qui se met, qui paraît, comme dit en hébreu, qui se détaille. Mais en réalité, le détail n'existe pas. C'est toujours le tout qui se met en détail, c'est tout. Est-ce que vous me suivez ou pas ? D'accord ? Les détails n'existent pas. Ça n'existe pas, la notion de détail n'existe pas.
Pourquoi utiliser le mot de Neshama pour le peuple ?
Parce que le peuple est une Neshama. C'est pour ça que la traduction de peuple en français ne se dit rien.
Non.
Alors qu'en hébreu, le mot âme introduit la notion de âme, qui veut dire avec.
Oui.
Ça veut dire que quand on parle de âme Israël, en réalité on parle d'une création divine qui s'appelle Neshama. Et on va le voir tout à l'heure, dans la suite du texte, pourquoi ce peuple s'appelle âme. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que l'âme, en français, c'est âme.
Oui.
Il y a un jeu de mots.
Il y a toujours un fondement dans les mots.
Il y a toujours un fondement dans les mots, on est d'accord. Donc, quand je parle de l'âme, je parle du âme. D'accord ? Donc, Neshama Elohim, Kakadosh Baruch Hu Nata Benishmat Yisrael, Hi Atviya Gdola. Donc, il y a une demande intérieure, insistante, qui me pousse à ne jamais me reposer. Et qui, comme un cri intérieur, te dit, bouge. C'est d'ailleurs un de ces cris que vous avez entendu quand vous êtes venu. Et pourquoi c'est pas tranquille à Paris ? J'aurais pu rester en Pologne. Non. Il y a un bruit intérieur, un fond intérieur, un hurlement qui te dit Lech Lecha. Ça veut dire quoi Lech Lecha? Comme Abraham a entendu. Ça veut dire tu ne peux pas te reposer. Tu es venu pour dévoiler quelque chose. Si tu n'entends pas ce fond intérieur que tu as, tu es en train de perdre ta vie, tu te perds. Et donc ce fond à l'intérieur ne te laisse pas tranquille. Tu vas dormir, il est là. Tu te réveilles, il est là. Tu veux te reposer, il est toujours là. Il te dit Tu dois bouger. Tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Imaginez-vous un élément intérieur que vous avez à l'intérieur de vous-même qui ne vous laisse pas tranquille. Il est tout le temps en train de vous appuyer comme ça. Alors tu mouves, tu détailles. Tu es en train de me tuer, tu es en train de me faire perdre mon temps. Vas-y, dévoile-moi. Le type qui devient fou. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un corps d'Israël qui s'est ouvert et qui est sensible et qui a la capacité à entendre ce fond intérieur qu'il a, qui sans arrêt lui demande et qui exige en fait, dévoile-moi. Je suis venu pour ça, ne perds pas ton temps. C'est la souffrance. La plus grande des maladies, c'est quand on ne dévoile pas ce que nous avons à l'intérieur. C'est ça la maladie.
Nécessairement.
Obligatoirement. Ça s'appelle une maladie. D'ailleurs, en français, le mot maladie veut dire c'est du mal à dire. Maladie. Donc tu as du mal à dévoiler ce que tu as. Quand tu dévoiles ce que tu es dedans, tu guéris. Quand tu ne dévoiles pas ce que tu es dedans, tu es malade. D'accord ? Puisque cette âme est codée, et que si tu ne dévoiles pas ce Kodesh, quel est l'inverse de Kodesh? Amabdil ben Kodesh, le Chol. Okay? Quelle est la source du mot malade?
Chol.
Cholé. Ou tu dévoiles le Kodesh, ou tu es cholé, tu es malade. D'accord? Donc la maladie n'est pas seulement avoir un petit bobo au bras. La plus grande des maladies, c'est de ne pas être collé à son identité Israël. Il peut dévoiler, mais avec une autre manière.
C'est-à-dire
qu'il n'a pas dévoilé. Peut-être. Je ne sais pas. Il y a plein de. Ouais. Je ne peux pas détailler dans ça. C'est énorme, ok? Il y a une référence à ce qui s'est passé avant dans sa vie, dans ses bilgoulines d'avant, et ainsi de suite. C'est très très complexe. Il y a un livre entier du Harizal qui s'appelle Sahara Bilgoulin. Ouais. Et qui est énorme. Toutes les combinaisons possibles pourquoi un homme subit telle et telle chose. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui ne dévoile pas, quelqu'un qui n'exprime pas, qui n'extériorise pas ce qu'il est dedans, finalement aboutit à une maladie. Et elle peut prendre plusieurs formes, mais c'est une maladie. Donc une maladie, c'est un blocage d'un certain membre du corps qui ne dévoile pas le divin qui est en lui. On va le définir comme ça. D'accord ? Donc chaque partie de notre corps, chaque partie de notre être qui ne dévoile pas ce qu'il est, qui n'est pas sur son identité, est malade. D'accord ? Et ça, c'est le degré d'Israël, c'est de dévoiler ça. Vous pouvez intervenir, le cours est ouvert. Hein? C'est une discussion entre nous, juste nous avons le texte pour nous aider à avancer, mais si vous avez des choses à dire, avec plaisir, je les entends. Est-ce qu'on peut se tromper sur ce dévoilement? Précise ta question. Tu crois entendre quelque chose, mais tu entends autre chose, c'est ça?
Je crois dévoiler quelque chose de faux.
Oui.
Je comprends que c'est vrai.
Oui. Oui. Parce que tu n'entends peut-être pas le vrai son que tu as, et tu entends une couche avant. Ça veut dire que, imagine-toi que tu as 10 couches de profondeur, la 10e couche c'est en Israël. Mais si tu arrives à la 9e couche, on va te donner une certaine émission qui n'est pas la véritable émission. Donc tu vas t'arranger un petit peu et tu vas un petit peu te mentir. Alors pour ça, nous avons une solution, ça s'appelle la prophétie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des prophètes, pour savoir si véritablement on entend le vrai son intérieur ou pas. Donc le prophète d'Israël, lui, entend le vrai son intérieur, il l'amène. C'est pour ça qu'on appelle Navi. Navi veut dire amenons. Faisons venir. Okay? Le Navi va faire venir quelque chose de la couche la plus profonde et il va le dévoiler vers l'extérieur. Et donc on va savoir exactement si je me trompe ou pas. Deuxième possibilité, le Shulchan Aruch. Okay? Si tu fais quelque chose qui aboutit à des choses qui sont complètement en dehors de la vie, lui, okay? Et tu te dis par exemple une conclusion, donc je ne peux pas observer le Shabbat, sache que si le sabbat est une partie intégrante de cette âme d'Israël qui s'est plantée quelque part. J'ai entendu un son qui ne vient pas de la bonne source. D'accord ?
Donc là, vous parlez d'harmonie.
Donc, je parle d'harmonie, absolument. Vous avez une autre question ? Pas seulement ici, même ailleurs. Okay, mais d'une manière générale, bon, c'est un thème qui est un petit peu plus. On ne va pas rentrer maintenant dans ce thème-là, mais ce qu'on appelle. Hein, aussi, peut-être, en tout cas, la Torah définit ça comme Ta'iba. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, où l'homme s'est trompé. D'ailleurs, en hébreu, les termes sont tellement forts pour être. Quand vous ne connaissez pas encore véritablement le langage hébraïque, c'est difficile de vous faire apprécier. Mais Toé ba, ça veut dire qu'il se trompe dans ce qu'il ressent. Toé ba, Toé va. Donc, en français, comment on s'est traduit dans les livres de traduction? Abomination. Ce qui ne veut rien dire par rapport à ce que je viens de dire. Hein? Quand tu es Toé va, ça veut dire que tu te trompes dans ce que tu ressens. Donc, c'est quelque chose d'erroné qui sort et qui s'est, en fait, qui a dévié. De la marche normale de la nature que Dieu t'a donnée. La nature est toujours bonne. Exactement. Le problème n'est jamais dans la nature que Dieu nous a donnée, ça c'est nickel pour tout le monde, puisque même un homosexuel le matin se lève et fait une bracha, Baruch Ata Hashem Elokal Neshama Shenasat Abit Tehora. L'âme que tu m'as donnée est pure. Et elle restera pure. Seulement, ce que j'en fais, la manière que j'ai de le dévoiler, c'est après une certaine déviation.
Bien
fait. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle la déviation. En hébreu, c'est dévier, c'est dit l'istok. L'istok. Dont la racine est Satan. D'accord. Donc, le Satan. N'est pas un volatile, quel, avec un système électronique. L'ictime. Non. L'ictime, c'est des voleurs, c'est un autre rapport, c'est encore un autre. Là, il y a Tamer Tetnoun ou Sin Tetnoun. Parce que le Tamer et le Sin sont des lettres qui s'intervertissent. Donc, le Satan vient du mot Tia, comme une certaine Gemara qui s'appelle Sota, qui est la femme qui a dévié de son chemin. Donc, il y a une certaine déviation de l'être, une certaine déviation dans la manifestation de ce qu'il a à l'intérieur vers l'extérieur, donc on va appeler ça Satan. Il a dévié de la marche normale. Un danseur qui est roqué, on l'appelle Ragdan. Un chanteur, on l'appelle Zamar parce qu'il est Mesamer. Un nageur, il est stocké, on l'appelle Sarkian. Un homme qui a dévié, qui est stocké, il est Satan. D'accord? Donc le mot Satan, le terme Satan veut dire déviation des choses. Et d'une manière générale, si l'homme d'Israël ne réalise pas ce qu'il est, donc réaliser, ça veut dire sortir, vivre ce qu'il est à l'intérieur, donc il y a un marché Satan, il y a une certaine force de déviation qui l'a empêché de dévoiler ce qu'il est. C'est-à-dire? Donc ça, c'est le danger. Ok? Donc nous devons sans arrêt faire attention à cette déviation que nous avons à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on fait dans toutes les prières, vers nous, sauve-nous à travers le coup, protège-nous de ces embrouilles, de ces déviations qui peuvent survenir dans notre vie de différentes manières sans arrêt. Et donc il faut faire très attention tout le temps de savoir qui je suis. C'est pour ça que j'ai commencé en disant la fois dernière que ce cours-là, les autres fait. C'est d'apprendre qui nous sommes. Et pour apprendre qui nous sommes, nous devons savoir d'où nous venons. Et pour savoir d'où nous venons, on a défini que nous venons de cette grande âme d'Israël. Donc je suis obligé d'étudier cette âme. Qui est cette âme-là? Pour savoir qui je suis moi et qu'est-ce que je dois dévoiler.
Donc si vous voulez passer du principe de âme d'Israël, c'est une interprétation il y a deux minutes par rapport à nos lignes. C'est qu'on dit que si nous sommes nos lignes,
c'est absolument la même chose.
C'est l'idée de
tout à fait. Ça veut dire que le peuple d'Israël est créé pour être Navi. Nous sommes tous un potentiel de Navi. Tous. D'accord? Mamlech et Forani, Begoy Kadosh. Nous avons une certaine, un degré que nous ne connaissons même pas. Et je vous propose, tiens, avec toute humilité, d'étudier cette grandeur que nous sommes. C'est-à-dire apprendre à apprécier qui nous sommes. pas seulement être plongé dans une vie juive, on commence à faire des halakhot et des mitzvot. C'est très important de faire des halakhot et des mitzvot, mais quand tu sais d'où elles viennent, quand tu sais qui tu es, tu sais apprécier en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, le cadeau qu'il t'a donné. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable, c'est phénoménal ce que nous sommes. Nous sommes vraiment spéciaux. Comme tu as dit tout à l'heure, alors nous avons une Neshama spéciale, différente, oui. Et il faut l'étudier. Donc cette étude, c'est l'étude de l'âme d'Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Nishmat Israël, Vehavayata. L'âme d'Israël est son devenir. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Une fois que j'ai cet élément qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'en fais? Le Rambam dit par exemple, dans ce Mona Pratim, qui est une préambule à Maseret Avot, au Maxime des Terres, que quelqu'un qui ne dévoile pas ce qu'il est véritablement, c'est comme s'il a été créé en vain. L'idiot.
Ah. C'est
la même chose.
Oui,
vous n'étiez pas au premier cours. Au premier cours, j'ai expliqué que le nom Yud-Ké-Vaké, en réalité, c'est le nom de l'être. Je ne peux pas traduire ce nom-là. Ce nom veut dire l'être, la Havaya. En hébreu, on le dit Shem Havaya, le nom de l'existence. Toute l'existence, c'est lui. Et donc, dans ce nom-là, de quatre lettres, il y a tout, absolument tout. C'est-à-dire tout ce que je vais chercher se trouve là-bas d'une manière qui va donner vie je n'ai pas apporté avec moi, mais peu importe. Par exemple, ce nom-là, vous le voyez ici, c'est par hasard, c'est un cours que j'ai donné hier soir. C'est la même chose, c'est le nom de Dieu. Mais vous voyez qu'il est dans une combinaison différente. Pourquoi? Tout simplement, c'est la combinaison du mois dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire le mois de Kislev. C'est-à-dire Dieu, l'existence, donc le Yud-Ké-Vav-Ké, le tétragramme, va se dévoiler ce mois-ci de cette manière-là. Donc nous avons 12 mois dans l'année. Donc les 12 mois de l'année vont à chaque fois nous donner le nom de l'existence avec une permutation de l'être. Et selon la connaissance de cette permutation de l'être, je vais savoir en réalité comment Dieu dévoile son entier. Alors c'est une étude très secrète, très profonde, mais en réalité, ça aussi, ça fait partie de notre Torah. Il faut savoir. Et donc la Rizal nous donne 12 combinaisons qui vont correspondre aux 12 combinaisons de tous les mois de l'année. Ça veut dire que chaque mois, je sais comment l'énergie du divin, donc de l'existence, va venir, va descendre dans ce monde. Juste pour la petite histoire, les lettres qui sont le Vav et le Yud sont des lettres masculines, d'ordre masculin, de genre masculin, et les lettres He, il y en a deux, sont des lettres féminines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est très complexe, mais je vous le résume vraiment sur un pied, que les lettres masculines sont des lettres d'investissement, comme l'homme qui investit, et les lettres féminines vont être des lettres de dévoilement. Et c'est pour ça que nous avons quatre lettres qui correspondent à quatre semaines du mois. Donc nous sommes dans la première semaine, la lettre Vav. La deuxième semaine, la lettre Yud va apparaître. La troisième semaine, la lettre He. Et la quatrième semaine, la lettre He. Et justement, dans cette quatrième semaine, va venir Hanouka. Entre la troisième et la quatrième semaine. Et donc, Hanouka est une fête féminine, c'est pour ça qu'elle s'appelle Hanouka. C'est pas Hanouk. Pourquoi on a rajouté un He à la fin? C'est la Hanouka. Parce qu'il y a un ordre féminin, et le côté féminin est un dévoilement. Okay? On va étudier un petit peu plus en détail tout ça. C'est très très riche. Vous êtes rentré dans une étude de la Torah d'Israël. Comprenez bien ce que ça veut dire. La Torah d'Israël va vous mettre à un autre degré d'étude. C'est-à-dire que vous allez comprendre un petit peu plus, vous allez un petit peu plus vivre la chose, pas seulement comprendre au niveau du texte et d'un livre que tu ouvres. Ici, tu vis la chose, parce que non seulement tu étudies le texte, mais tu te trouves à l'intérieur de la géographie de ce texte. Nous sommes en plein milieu de la lettre. C'est parce que vous habitez ici. Donc nous avons une grande chance qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisi parmi des millions de personnes pour venir habiter sur cette terre. Et il faut savoir le remercier chaque jour. Celui qui oublie ne serait-ce qu'un instant ce qu'il est en train de faire ici, a raté quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre ce que nous sommes ici, ce que nous faisons ici. Et il ne faut pas s'habituer à ça. Et je viens de revenir des États-Unis la semaine dernière. Quand je descends de l'avion, il faut que j'embrasse le parterre. Pour comprendre, parce que je sais ce que cette terre est. Parce que j'étudie cette terre. Et j'étudie cette femme, c'est une épouse. Il faut comprendre qu'est-ce que cette terre représente pour le peuple d'Israël. Quand tu commences à comprendre la force qui se trouve ici, et ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné comme cadeau d'être ici, alors c'est une souffrance pure et simple de sortir. Ne serait-ce que pour un voyage. Et c'est un bonheur de revenir. Nekeba. C'est Rasta. Lama Nikra Shma Eret. Pourquoi son nom s'appelle Eret, dit la Gemara. Mishum c'est Rasta, c'est Mina, elle a voulu. La volonté de son créateur. Donc la terre, c'est elle. Qui veut dire rosser. Je veux. Donc c'est une terre qui veut. Donc une terre qui exige de toi de te dévoiler. J'ai toujours à des couples qui sont arrivés ici. Tous les problèmes que vous avez cassés sous le tapis en route là vont ressortir ici à la surface. Vous êtes obligé de vous mettre face à vos problèmes et de les régler. Ce ne devrait rien passer ici, c'est une terre qui dévoile. Elle ne dévoile pas seulement tes problèmes, elle dévoile qui tu es. Tu vas véritablement te dévoiler ici. D'où je sais ça, c'est marqué. Avraham Avinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit d'aller sur cette terre, il dit Asher Ar-Eka, là-bas je te montrerai. Là-bas tu te réaliseras. Ici tu n'as pas d'enfant, là-bas tu auras tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, Birati? Ça veut dire que les enfants, c'est la construction. Banim, ça vient du mot bonnet. Un binyan, c'est une construction, un édifice. En dehors, tu ne peux pas avoir d'édifice. Tu n'es pas dans l'endroit qui correspond à ce dévoilement. Quand tu vas atteindre ce lieu, tu vas commencer à te dévoiler tout doucement, tu vas réaliser qui tu es. Réaliser, pas seulement réaliser dans la pensée, parce qu'en français, on a toujours des problèmes de compréhension. Réaliser qui tu es, c'est. Ah oui, c'est pas mal. Non, réaliser, c'est sortir, vivre selon ce que je suis dedans. D'accord? Dans le réel.
C'est la question de donner une âme, de construire un monde mieux, etc. Quand je dis bon adulte, c'est bien, c'est une petite Torah, la Torah doit être toujours dans le monde de corps, mais ne vis pas les avances de la science, parce qu'on doit faire un balance un petit peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé une vie, qui ne pensent pas selon un droit matériel. Je veux faire une maison, je veux faire une bonne voiture, etc. Mais de l'autre côté, des mecs très religieux qui ont changé une vie et ils ne dévoilent pas, ils sont pauvres, ils vivent de la tzedaka, ou tout beaucoup de Torah.
C'est pour ça que tu es tombé dans une bonne yeshiva. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que. C'est l'une des rares yeshivot qui relie le ciel et la terre. Qui relie ce que tu es au niveau de ton âme, lui, et de ce que tu vas faire aussi dans la science, dans l'armée, dans la vie. C'est-à-dire que tu n'es pas une âme déconnectée d'un lieu, et tu n'es pas un lieu déconnecté d'un esprit. Tu es les deux réunis. Et ça, c'est la force du maçonnier. Et de Merkaz Arab, d'une manière générale. C'est le Rav Kook. Ça, c'est la Torah des Rétifraïs. C'est ce que le code se dévoile dans le Teva, dans la nature. Et il faut les deux. Et c'est pour ça que le genre de Torah que nous développons, c'est une Torah qui nous envoie à l'armée, qui nous envoie à se battre, avec une conviction que notre combat est réel et qu'il est vrai, et qu'il est nécessaire, et qui nous pousse à devenir des ingénieurs, et des techniciens, et des gens importants qui vont pouvoir dévoiler dans la technologie, dans la science, ce qu'ils ont reçu dans la Torah. Donc c'est une âme dans un corps.
Okay.
Oui, toujours. Quand je reviens de n'importe où, c'est juste pour.
Pourquoi il y a certains
rabbins
qui ne peuvent pas
le faire? Chacun fait ce qu'il ressent. Moi, je ressens et j'ai reçu de mes ancêtres, de mes pères, que cette terre s'est collée, donc je l'embrasse. De la même manière qu'il y a une mitzvah dans la Hassidut, d'embrasser le mur de la Souka. Vous savez ça? Quand tu es dans la Souka, pendant la fête de Soukot, les Hassidim embrassent les parois et embrassent le Tzrach. Pourquoi? Parce que c'est un code. On ne peut même pas utiliser la paroi de la Souka pour faire quelque chose. La Gemara dit un turban. Il n'a pas le droit de prendre une branche de la Souka et te nettoyer les dents. C'est du code. Tu es la haine d'un certain degré. Donc le code, je l'embrasse. De la même manière que quand je signe un livre, je l'embrasse. C'est-à-dire des lettres et du papier imprimé. Mais il y a à l'intérieur une catégorie, une certaine force. Ça veut dire quoi? Mis dans cette terre, du code. Et ça code. Donc j'embrasse la terre. Je n'ai pas entendu de Rabbanim qui dit qu'il ne faut pas le faire.
C'est pas parce que les cousins
font quelque chose que je vais arrêter de le faire. Ils ont dit qu'il fallait aimer les uns les autres, je vais pas arrêter d'aimer parce qu'ils ont dit la même chose. C'est pas parce qu'ils m'ont pompé quelque chose que je vais sortir de ma Torah. De quoi?
La fonction. On voit que Dieu aime la tension et qu'il l'a enlevée parce que plus tard, il faudrait la tension pour la vraie
vie. Pas une chose. Il faut étudier ça. Ouais.
Okay. Le rapport qu'on a avec cette terre, c'est le
thème. C'est un rapport d'homme et de femme. Donc de potentiel et de dévoilé. Comme si tu te mariais. D'ailleurs, le terme est très précis, si tu as et la ça sonne bia. Bia, qui veut dire un rapport intime entre le peuple et la terre. Ça veut dire que quand tu viens sur cette terre, elle va te donner, elle va devenir enceinte de ce que tu es. Et donc elle va accoucher, elle va engendrer tout ce que tu vas, en fait, planter à l'intérieur. Quand tu te plantes sur cette terre, quand tu t'enfonces dans cette terre, c'est comme si tu avais une adhésion à cette terre va te donner ses fruits, va te donner toute sa bénédiction. D'ailleurs, l'une des références de la Géoula d'Israël, c'est que les fruits de la terre donnent de bons fruits, de beaux fruits. Pourquoi? Et remarquez que quand les nations du monde étaient là, la terre ne donnait rien. Ça veut dire qu'elle ne se donne pas à un autre homme. Elle se donne à son homme. Et son homme, c'est son peuple. D'accord? Donc il y a un lien très très profond, mais on ne va pas développer ici. Vous allez sûrement étudier Oroth du Rav Kook, un jour ou l'autre, vous allez commencer ici, parce que c'est un des livres clés. Et dans Oroth, il y a premier chapitre, Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, le premier mot, c'est la première phrase, Eretz Israël est même d'avoir fictionné. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Si tu crois que c'est une terre comme les autres, c'est planté. Il faut que tu te plantes, mais pas dans le même temps. Comme une vraie plante qui va pousser. D'ailleurs, le matière s'appelle plante. C'est marrant. Et la vérité ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. C'est net, mais elle est qui marche. La vérité pousse de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une qualité dans cette terre-là qu'on ne comprend pas, parce qu'elle est au-delà de la logique, elle est divine, mais qui nous fait sortir tout ce que nous sommes. Et donc ici, tu peux te dévoiler en tant que juif. Et je vais vous dire plus encore. J'ai donné un cours à des médecins sur la médecine et la Torah. Et j'ai expliqué là-bas qu'en réalité, un homme ne peut pas guérir complètement de ses maladies s'il ne se trouve pas dans l'endroit qui lui correspond totalement. Et au niveau physiologique et au niveau psychologique. Et donc un juif qui veut guérir de plein de maladies mentales, okay. Et l'une de ces guérisons, à mon avis essentielle, c'est de venir habiter dans la terre qui correspond à sa nature. Et je ne peux pas considérer une guérison seulement parce que tu es rentré chez un médecin à Paris qui t'a donné certains médicaments. Ta véritable guérison, si tu veux véritablement guérir dans l'ensemble de ton être, c'est aussi d'habiter à l'endroit, dans le lieu de la planète qu'Akadosh Baruch Hu t'a réservé, parce que tu corresponds à cette terre-là, et que cette terre te correspond.
Ça
veut dire
correspondre
à une tribu. Okay. Nous avons des endroits où nous habitons. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas exactement, mais on est attiré. Quand vous êtes attiré par un certain lieu en Israël pour y habiter, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre nature. Quand Elia ou Anavi viendra pour dévoiler le Mashiach nous placera chacun à l'endroit qui lui correspond encore le plus. C'est-à-dire, même si tu habitais à Ra'anana, et qu'il te dit non, toi, ta place c'est à Yerushalayim, alors tu vas te déplacer. Pour dévoiler encore plus que tu dois te dévoiler, parce que là-bas, tu perds un petit peu. C'est comme si tu avais une lampe de 200 watts, volts, et on te fait allumer juste 50. C'est dommage, tu perds ton énergie. Donc nous sommes, encore une fois, c'est toujours dans le même ordre d'idée, poussés à aller à dévoiler le maximum de ce que nous sommes. Le plein de ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu ait créé du pétrole, mais que jamais ce pétrole ne trouve une allumette pour l'allumer. Ce pétrole aura été créé en vain, pour rien. On est d'accord. Le pétrole doit brûler, doit se consumer pour créer l'énergie. Donc si je ne fais pas ça, si je ne présente pas une allumette un jour à ce pétrole, ce pétrole aura été créé pour rien. Certainement. Donc il faut faire attention comment. Et donc toutes les suites, c'est de savoir mais à une bata ou les anatarolis. D'où tu viens et vers quoi tu vas. C'est ça que je vous propose d'étudier ensemble. Et donc nous allons tout doucement rentrer dans des références. C'est pas seulement du texte en l'air. Okay? Donc cette qualité. Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu Natav Benishmat Israël, Yatzvia Gdola, c'est Mechayedet Yotaham, donc elle nous oblige, cette demande intérieure, insistante, de devenir le peuple qui fait quoi ? Que Meshapel et Tehillat Hashem, qui raconte la grandeur de Dieu, la Tehillat. Je ne vais pas maintenant rentrer dans chaque mot, parce que chaque mot est un monde. Qu'est-ce que c'est Tehillat ? Du de la racine Ken Tehillim, c'est. C'est très 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 grand. Le Hallel, par exemple. Le Hallel, c'est la même chose. Vous avez lu le Hallel ce matin, on est refroidi. Donc, il faut comprendre que ce que ce mot veut dire, okay? Hallel. Mais ce n'est pas en ce moment la place. En tout cas, nous sommes un peuple qui est venu, je vais traduire avec un langage simple, raconter les louanges de Dieu. Et il y a un verset dans Isaïe, okay? 43. Verset 21, qui dit clairement, Am Zou Yassar Tili, ce peuple-là, je l'ai façonné pour moi, c'est Dieu qui parle. Il parle du peuple d'Israël. Donc, Am Zou Yassar Tili, Tehilati Yesaperu, pour une seule chose, pour qu'il raconte ce que je suis. Donc, ce sont mes représentants dans le monde qui sont venus raconter le Kodesh. Est-ce que tu racontes le Kodesh? Oui ou non? La question. Est-ce que tu es un représentant du Kodesh, oui ou non? En tant que représentant de la grande boîte qui s'appelle Kusha Berichu, tu dois t'habiller bien, tu dois te présenter bien, tu dois parler proprement, tu dois te conduire normalement, tu dois manger proprement, tu dois écouter quand on te parle, tu dois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, toutes les mitzvot, toutes les mesures, toutes les vertus que tu représentes dans ce monde, si elles ne sont pas bonnes, elles ne font pas honte à toi-même, elles font honte au patron, à la boîte dans laquelle tu travailles. Cette boîte, c'est pas n'importe quelle boîte. Donc nous devons être des représentants sans faille. Et chaque fois, nous devons nous travailler de plus en plus pour devenir les bons représentants. Et comme dans une boîte, dans ce monde, si le représentant est bon, et que les gens du téléphone disent « Envoie-le-moi, celui-là, il est bon, il arrive bien à faire passer le message. » Okay, alors, à Kadosh Baruch Hu, le patron, il se dit « Bon, ben, je vais l'augmenter, celui-là. Je vais l'envoyer un petit peu à droite, à gauche. Il va devenir représentant, je vais lui agrandir son terrain d'action. » Et donc, pour lui en augmenter son terrain d'action, je vais même lui apprendre certaines choses que les autres représentants ne savent pas encore. Je vais lui donner certaines combines, certains secrets de ma société, et ainsi de suite. C'est exactement ce qui se passe avec un homme qui a envie véritablement de devenir un bon représentant. Ça fait même qu'on lui donne un peu plus, c'est un peu plus. Il lui permet de dévoiler des secrets que les autres ne savent pas. Il lui permet d'entendre des choses que les autres n'arrivent pas. il lui permet de grandir dans la Torah, de grandir dans sa vie, de grandir dans tous les domaines, parce qu'il fait le travail comme il faut. Abraham Avinu, par exemple, Abraham Avinu raconte comment ça fait, parce que c'est notre racine, c'est notre graine de départ. Abraham Avinu fait ce travail d'une manière extraordinaire, donc à ta voix, il lui dit, mais c'est un bon travail, toi. En train de convertir des hommes à me reconnaître. Donc, je vais t'utiliser encore plus. Tu vas devenir un grand Abraham Avinu. Tu vas donner toi-même la nation d'Israël. Pas parce que tu fais bien le travail, tu as choisi déjà avant. Mais je vois que véritablement tu dévoiles. Pas parce qu'on nous a choisi que c'est fini. On m'a choisi d'être juif. Je suis né juif, alors qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux ou t'endormir avec, ou dévoiler ce que tu as reçu. Donc quand tu dévoiles ce que tu as reçu, tu vis selon ce que tu as reçu, ça va te faire. Donc réalise. Certifie.
D'accord.
Il y a des questions? On continue. Donc, Isaïe nous dit ici quelque chose d'extraordinaire, un verset qui est une clé. Ce peuple a été créé pour un rôle, dévoiler Dieu. Ou Mahmat a taskid agadol, et parce que ce rôle est très important, ce qui bloom les mâles, qu'ils ont reçu d'en haut, un Israël menucha ba'olam. Donc là, je dis clairement, Israël n'a pas de repos. Dans ce monde. Jamais on nous laissera tranquille, oublié. Pourquoi? Parce que quand on est un petit peu en train de s'endormir, on ne joue plus ce rôle. Alors tout le temps, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer des petites piques, des petites flammes, des petits machins, des petits terroristes, des petits machins, peu importe. Tout le temps, on va nous embêter pour ne pas qu'on oublie qui nous sommes. Et quand tu oublies toi, malheureusement, ce nazi va te dire: non, lui aussi, il est juif. Mais il n'est pas religieux, non, j'en ai rien à faire, ils sont tous dans le même cercle. Ça veut dire que vous avez une seule âme à dévoiler, et le gong le fait. Même si toi tu caches. Donc nous n'avons pas de repos. Et le Chachamim nous dit clairement dans la Gemara, Tzadikim, El Haem Menucha. Les Tzadikim n'ont pas de repos. Lo Ba'olam Hazeh, Ve Lo Ba'olam Haba. Ni dans ce monde, ni dans le monde d'après. Dans le monde qui vient. Jamais un Tzadik n'a du repos. Alors une personne va me dire, oui, mais là tu parles du peuple, pas du Tzadikim. Non, il y a un autre verset qui dit, Ve'a mer, ton peuple, coule l'âme Tzadikim. C'est tous des qualités. C'est Néma, Léolam, Yerushu et Yerushu Ere. À condition, dit le Zohar, qu'ils viennent habiter, hériter sur la terre du frère. Quand ça dit le Zohar à Kadosh. Goy Echad Ba'ar. Et plein de versets qui vont dans la même direction. Donc nous n'avons pas de repos. Pourquoi? Qui est Manos, parce qu'on ne peut pas se sauver, mais à Zéhout de l'identité, ce Nikbéa Bahem, qui a été gravé, qui a été scellé dans ce peuple-là. Et là, seulement, cependant, ce Nikbéa Asmo, à cause de ça, même les plus grandes fautes d'Israël peuvent arriver. C'est-à-dire que parce que tu as quelque chose de très grand en toi, de divin en toi, d'immense en toi, tu peux arriver à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à fauter avec des fautes énormes. Tu vas faire de grandes bêtises. Pourquoi? Parce que justement la demande qui est à l'intérieur de nous, elle est tellement grande, tellement intérieure, elle nous pousse tellement à dévoiler tout le temps des choses très très puissantes de l'ordre du divin, les Gilouyakod, donc dévoiler le saint, mais Khanechetotam le Khitou, donc on est éduqué depuis notre enfance, à quoi? À chercher toujours les Khapesh et à Tada Elohi, c'est le Kol Dabar Bachani. Toutes les choses les plus divines qui se trouvent dans la vie. Ça veut dire que peu importe, aujourd'hui tu vas être relieur de livres, tu ne pourras pas être un relieur comme tout le monde. Un juif, il faut qu'il soit le meilleur. Il a envie de devenir un top, il va s'acheter des bonnes machines, des machines. Vous le voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être parvé. Un petit peu comme ça, un moyen. Non, il ne veut pas. Il y a quelque chose en lui qui le pousse, parce qu'il a été éduqué à chercher le divin, à dévoiler l'extrémité dans tout. Donc ça va devenir, par définition, un extrémisme. Un juif est extrémiste dans ce qu'il fait. Parce qu'il est tout le temps dans l'ordre de l'extrême. Parce qu'il a été éduqué à dévoiler l'extrême. C'est quoi? Non, ça c'est parce que nous devons être dans la milieu. Et quand je dis l'extrême ici, c'est pas au niveau de la position. Je pense qu'on veut aller tout le temps au maximum. Et ce maximum, ça va être le milieu. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas l'inverse de ce que Rambam dit. Rambam, il te dit, il faut toujours chercher Derech HaMelech, Derech HaEmta. Okay? Mais quand il te dit Derech HaEmta, c'est en réalité le top niveau. C'est le Derech HaEmta. Il le cache. C'est pourquoi l'oïmat'u shum osher, un homme d'Israël ne peut jamais se contenter, jamais devenir heureux de ce qu'il a, ostipouk, jamais il pourrait être rassasié, satisfait, zoulato, s'il ne touche pas à quelque chose qui est divin dans ce qu'il est en train de faire.
Zoulato,
ça veut dire à part ça. Ça veut dire, à part toucher le divin qui est dans chaque chose, qui va toucher dans ce monde, il n'arrive plus, il est blasé de tout. Il lui faut toujours quelque chose qui le met dans un état, parce qu'il a l'habitude de dévoiler du divin. Il a besoin de ça. Donc c'est un homme qui va tout le temps se paraître comme s'il a faim, qu'il veut avaler le monde. C'est ce qui gêne les nations. Les nations en veulent aux juifs, parce que le juif, tu le mets dans un trou, il te fait une fête. Au bout de 10 ans, ça devient le patron du trou. Tu mets Yosef dans la prison d'Égypte, le fin fond du trou avec les rats, au bout de quelques temps, il devient le chef de la prison et il commence à devenir le rat. Là-bas, il donne des figurines, des machins, et il sort, il devient roi d'Égypte. D'où tu es sorti, toi? Ou là où tu le mets, il devient comme ça. Pourquoi? Il a un rôle et ce rôle ne le laisse pas tranquille. Il est tout le temps en train de le pousser de l'intérieur. Quelqu'un qui n'a pas cette poussée intérieure, il est en dehors. J'ai l'après-midi, je vais faire tranquille, je me laisse aller, toute ma vie. Le juste n'arrive pas. Même quand tu fais la pièce, il a tout ce qui fait le président. Fais-toi, fais un cours, fais un truc, fais des voiles, etc. Je vous le dessine, hein, je fais des caricatures. Mais c'est pour. Parce que c'est un petit peu mon métier. Donc je vous pousse un petit peu à comprendre les choses par du dessin. Qu'est-ce que tu dis, excuse-moi.
Je crois que dans la manière de dire, non, on ne peut pas bouger, ça peut pas se faire.
C'est toujours comme ça.
Ça ne jamais bouger, parce que tout le temps change, attends, c'est pas possible.
On ne peut pas. C'est vrai.
Dès qu'on voit quelque chose qui ne marche pas, dans tous les cas, il faut qu'on change.
Exactement. Donc, bien fait, non. Si tu commences à travailler à 9h, tu finis à midi, tu vas dormir, tu te lèves à 3h, tu finis à 5h. Et un quart d'heure avant, il faut que tu termines parce qu'il y a des tests à faire et machin. Tranquille, c'est ça. Un juif, il vient dans le même quartier, il est toute la journée, sans non-stop, le dimanche compris. Et sans heure, il mange un sandwich en travaillant. Il casse toute la baraque là-bas. Et là, il devient fou. Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Arrête-toi, midi, reprends un deux-heures, tranquille. Non, ça ne marche pas. Donc, l'œil, c'est où son procès au stipouk de la tour. Mais colma, c'est l'œil qui a dit, et donc tout ce qui n'atteindra pas dans leur vie, leur smatar gassa, cette puissance du ressenti, c'est de madriga elohi, donc de l'ordre divin, donc, tout ce qui ne va pas atteindre ce degré-là dans ce que je fais, il y a l'un, c'est d'avoir ça fait, c'est un boyer. Ça va devenir quelque chose de. Ça m'intéresse pas. Il n'y a rien qui me fait vibrer là-dedans. Donc tu vas tout de suite jeter cet endroit, cet élément, tu vas le repousser. Tu sais. La selle, ça veut dire phase. Ça va devenir phase, ça va devenir... La selle, c'est moins important. Il y a le ikar et le tafel. Donc l'essentiel et le futile, voilà. Le vrai mot, c'est futile. Ça va devenir futile. Hein? Futile, c'est le même lettre qu'en hébreu, tafel. Quand c'est un verset là, ça fait futile. Il y a un dictionnaire qui reprend tous les termes et qui montre comment tout vient de la langue hébraïque. Ok? À portée de main, immédiatement. Yad. Immédiat. Ok? Depuis Newton, Donc à l'intérieur du peuple d'Israël, Yobin Israël, c'est Kol Chayehem Enam Ela Chaye Yitiachadut Imri Bonan Shirola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur d'Israël, dans le fin fond de l'idée Israël, chacun de nous ressent que toute notre vie n'est qu'une seule chose, c'est qu'on est complètement dans un jeu divin. Je dis jeu entre guillemets. On sait que tout est divin. Au fin fond de nous, on sent qu'en réalité, on n'a rien d'autre que ça. Tout est ça. Tout est divin. Pas même des gens qui ne sont pas entre guillemets religieux. Tout est de l'ordre de, qui dépasse en fait l'entendement physique, terminé, mesuré, limité de ce que je vois ici. Ça va beaucoup plus loin. C'est pourquoi un juif ne pourra jamais se contenter des chavayot memoustav, par des ressentis ou des, comment on dit, chavayas.
Des
expériences, une existence qui est memoustav, ça veut dire gentil, moyen, tranquille. C'est le petit truc, comme ça, un petit bonhomme de chemin, tranquille. Ça marche pas, il n'y arrive pas. On a l'impression que ce sont des hyperactifs. Et là, Benetia, donc il y aura toujours une tendance, le piston nuit de Kolakroumi, à devenir extrême dans tous les domaines. Doya Tava, la Géoula. Et en réalité, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce désir qui n'est jamais satisfait? C'est une grande envie, une grande demande de délivrance. C'est ça le moteur à l'intérieur. On ne sait pas le définir, on ne sait pas le dire. C'est pour ça qu'on étudie. Quel est le moteur qui nous pousse à tout ça? C'est qu'on a un désir absolu d'être délivré, de messianisme. C'est Chaya Benishmat Israël, c'est ce désir messianique vit à l'intérieur de l'âme d'Israël, Ad Shafilu Taranidia Olam Azé, jusqu'à tel point que même le plaisir de ce monde, quel matériel de ce monde, le Gam Elu Shela Olam Azé, même le plaisir du monde qui vient, de l'au-delà, Lo yoklu le chabot et asalhev et aboeret ne peuvent pas éteindre. On a beau te faire tous les plaisirs de ce monde, ça n'éteint jamais le feu qui est en toi. Aboeret de Kirvan qui brûle à l'intérieur, vient de ce peuple, les malais tristron à Argasha et Lori pour combler ce manque en fait du ressenti divin. C'est-à-dire tout ce qu'on va te donner, comme tu n'es pas encore divin, tu vas te dire non, il me manque encore quelque chose. Parce que ta demande vient tellement de haut, de tellement profond, que tout ce qu'on va te donner, ça va arriver à 80-85%. Tu dis, ah, il me manque quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y en a qui me disent, ça y est, repose-toi, tu ne vas pas manger le monde. Non, il faut que je fasse là-bas aussi, mais je ne sais pas d'où ça vient. Là, on apprend d'où ça vient. C'est un grand désir de délivrance, c'est un grand désir de dévoilement, en fait, de Dieu. Qu'est-ce que c'est la délivrance? C'est le dévoilement de Dieu sur terre. Jusque là, c'est bon? Qui pousse? Vas-y.
Pourquoi Liban, c'était
tellement. Le Liban, c'était tellement quoi? Catastrophe. Ça dépend de quel sens tu le regardes. Okay. Tu étais soldat au Liban?
Non.
Si tu étais soldat, tu aurais vu que les soldats se sont aperçus quand ils sont revenus ici. C'est que les gens d'ici voyaient les choses comme, pas comme eux les ont vues. Il y avait un grand décalage entre les soldats eux-mêmes et ce qu'ils ont ressenti du, ce qu'on appelle de la ORS, comment on dit,
la
population. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage. Les soldats ils sont sortis en se disant qu'ils avaient combattu, véritablement qu'il y avait quelque chose, et ici on a dit ouais, vous avez raté ce bien. Donc il y a un décalage. C'est vrai que c'est compliqué. Tu as raison, il y a un... Mais ça fait partie de notre de nos masses d'érimes, de nos crises très messianiques. Et ça, nous avons des problèmes, toujours, entre l'éthique, entre la morale, et le travail que nous devons faire. Et on ne sait pas très bien, parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments, parce qu'on n'étudie pas assez. On ne sait pas toujours que, par exemple, ne pas tuer certains ennemis, C'est ça qui est pas moral. Et donc tu te dis, mais attends, je peux pas le tuer, c'est quelque chose. Le peuple d'Israël est tellement bon à l'intérieur qu'il a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que sa bonté lui coûte très cher. Par exemple, cette semaine, on a attaqué à Gaza. Et une heure avant l'attaque, on a envoyé des prospectus en disant à tout le monde, dans une heure, on attaque. C'est gentil, hein? Très sympathique. Donc, on va attaquer les immeubles, les machins, les usines. Tu as reçu des tracts d'arabes qui te disent on va attaquer dans une heure? Si tu pouvais nous décrire directement, c'est direct. Il n'y a pas de baratin. Pourquoi? Parce que nous avons une équipe, et j'allais dire, je dirais, heureusement que nous avons ça, parce que c'est ça notre force en même temps, mais en même temps ça nous coûte très cher parfois. Alors, on ne sait plus faire la différence entre ce qui est la morale et ce qui est défendre sa vie, quand tu es en train de faire mourir ses propres soldats pour, soi-disant, devenir moral par rapport aux autres. Donc nous avons des problèmes, c'est vrai. C'est un travail, c'est un tri, c'est une éducation, c'est un travail pour savoir que notre guerre est juste. Tant qu'il n'a pas conscience que ta guerre est juste, tu ne peux pas combattre. Tu sors en te disant, mais attends, je ne suis pas très convaincu qu'il faille faire cette guerre. Donc c'est ça. Si tu es un soldat qui sait que tu te bats et que c'est juste ce combat-là, tu gagnes. C'est clair. Et celui qui sort au combat et qu'il est sûr de sa de la raison, et qui sait qu'en réalité c'est un combat divin qu'il est en train de faire, pour dévoiler le divin, il gagne. Mais s'il est un petit peu parvé dans son milieu, alors il est un petit peu boiteux, quoi. Sa victoire n'est pas une victoire, c'est pas, on ne sait pas trop si c'est une défaite ou une victoire. Mais tout se passe dans la tête.
D'accord,
c'est quand ils ont. Les soldats eux-mêmes avaient l'impression d'avoir combattu, c'est pour ça qu'ils ont vraiment travaillé comme il faut. Mais les journalistes et le peuple et les bruits que les soldats entendaient pendant qu'ils combattaient, c'était « Ouais, on n'arrive rien à faire, ça sert à rien, ça sert à rien. » Ils ont des postes radio, les soldats. Donc ils entendent des informations, alors que lui, il vient de faire quelque chose de très important. Il rentre lui pour se reposer, ou dans sa tente pour se reposer quelques heures. Et il entend les informations qui disent « Ouais, on est en train de rater cette guerre, tout est faux, tout est machin. » Comment tu veux que tu repartes après? Quand tu dis qu'il revenait, c'était des premiers combats. Et après, ils étaient déçus par la population d'ici, qui était elle-même déçue. Donc ça cassait le moral des troupes. Parce que nous avons certaines erreurs. Parce que nous laissons des postes radio à des soldats, parce que nous leur laissons encore les portables, parce que nous les laissons parler à leur famille pendant les combats. Il y a plein d'erreurs. Okay. Et l'armée apprend, réapprend à éliminer tout ça. Okay. Le Rambam dit clairement que quand on est au combat, il faut oublier tout le monde. Il n'y a plus personne. Tu es en train de combattre pour le Dieu d'Israël, tu dois faire le travail. Si tu commences à penser à ta femme et à tes enfants, tu vas commencer à perdre tes forces et tu vas même pourrir toute ta compagnie. Et donc, il faut rentrer à la maison. C'est sûr. Donc, il y a des Ilkhot Milchama. Malheureusement, l'homme ne s'est pas vu sans guerre, donc. La Torah, elle est descendue même à ce niveau-là, elle nous a fait des halakhot pour la guerre. Ça veut dire que c'est un idéal, hein? Mais il y a des halakhot aussi pour ça. C'est-à-dire? Donc, on n'a pas dit qu'on est arrivé au bout, on a encore des choses à régler, grâce à Dieu et du boulot, mais c'est en étudiant notre identité qu'on arrive à régler et à éduquer une nouvelle génération à des valeurs qui sont des valeurs qui sont les siens, des vraies valeurs. La recherche qui nous fait agir, okay, qui fait agir Israël, qui est le moteur en fait, c'est la racine du manoa, le ripout, la recherche qui fait agir Israël, vous, tamid, la date, c'est toujours de savoir ailleurs, mais comme Kévodé. Où est le lieu de son kavod, de sa gloire à Kavod Baruch Hu. C'est-à-dire, on veut tout le temps chercher le divin dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi la chaîne, c'est Godel Nishmatam, par rapport à la grandeur de leur âme, Et parce qu'il y a une poussée intérieure très forte, qui nous oblige à dévoiler la sainteté, le saint, plus exactement. Sophia Atota, donc va apparaître le résultat, Tamid de Maasim Kitsonim, la Tov ou la Moutav. Donc toujours ça va apparaître par des actions extrêmes, ou dans le bien, ou dans l'inverse du bien. C'est ce qu'on appelle la Shon Nesia, un langage propre en hébreu, pour ne pas dire Ra. Donc quand tu dis le bien, au lieu de dire Tov et Ra, tu dis Tov et Moutav. Donc tu restes dans le mot Moutav, la racine du mot bien, mais tu sais que c'est l'inverse. D'accord ? C'est une manière de parler en hébreu pour ne pas dire le terme de mal, pour ne pas sortir les choses négatives de sa bouche. D'accord ? La Torah nous enseigne ça quand elle parle des animaux qui sont stériles à la consommation, et elle te dit, et les animaux qui ne sont pas à ta sœur. Elle aurait pu te dire, c'est les animaux qui sont tarés. Ou tamés. Donc il dit, v'etachaya sur l'otehora. Ça te dit, la bête n'est pas pure. C'est plus propre. Donc la Torah nous enseigne comment parler. En tout cas, l'idée est comprise, c'est que nous agissions toujours dans une force divine qui est en nous, selon un feu divin qui est en nous. Donc cette demande infinie qui est en nous, on peut arriver à des erreurs très très graves, de l'énéphilote gdolos, et à des chutes énormes, parce que justement on ne s'est pas arrêté au milieu. Bema'alach ha'historia, tout le long de l'histoire. Sur le sol d'Israël, il est toujours dans les extrêmes, il est ou très 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 bas, ou il monte très haut. Le fait est faux. Il sort de tout ce qu'on vient de dire. Tu kol halich luchim, j'ai mis entre guillemets, que toutes les saletés, c'est Israël mitlach lechim banim, Israël subit, non, Israël se salit. Emrak bechitoni, ta moralité, ce n'est que sur leur partie superficielle que ce degré les touche. Je veux dire par là qu'Israël n'est jamais touché dans son âme. Quoi qu'il fasse. Peu importe les erreurs qu'il aura faites dans sa vie, Israël reste Israël, son âme reste pure. Non. La Neshama n'est pas touchée. Le corps est touché. Est-ce que j'ai dit Kryptonite dans le corps?
C'est quoi le corps?
D'accord, l'âme n'est pas touchée.
Dans le principe du corps.
Voilà. La partie superficielle, donc c'est le corps, l'enveloppe.
C'est quoi l'enveloppe, le corps du
frère? L'enveloppe, c'est le juif. Le juif, c'est leur corps. On a brûlé des millions d'hommes dans la foi, mais leur âme n'est pas brûlée. L'âme d'Israël vit. D'accord?
Dans tout le texte, la grandeur de... Pas la grandeur. La manifestation du peuple d'Israël n'a pas une alaga du peuple d'Israël par Israël lui-même.
Tu comprends ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on prend conscience que c'est Dieu qui fait tout.
Oui, c'est-à-dire le peuple n'est pas composé de citoyens, de dirigeants, de tout ce qui a un rapport avec le peuple, en fait, parce que là,
ce qu'il
a pour le peuple, c'est chaque, malgré tout, chaque individu qui est représentant du Kodesh, mais on ne parle pas du Sylvia avec Sylvia.
Exactement, on va parler de l'âme, pour l'instant, collective. Qui dit âme collective, dit peuple. Qui dit peuple, dit royauté. Qui dit roi d'Israël, dit... Le divin qui se dévoile sur terre. Le roi ne dévoile pas, donc il a choisi de se dévoiler. C'est un représentant pour tout l'ensemble de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'à côté du roi, il y a toujours un prophète. Parce que le roi lui-même s'invite, parfois. Donc il lui faut un prophète à côté. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il va faire, c'est divin. Tout un roi d'Israël, un vrai roi d'Israël, c'est. Doit faire, après la loi d'Israël, c'est que divin, c'est du divin sur terre. Donc, par exemple, si le roi passe et tu te lèves ça, qu'est-ce qu'il doit te faire le roi? Te tuer. Te tuer, non, parce qu'il va faire, il est obligé. Mais le machal al-kvodo, el-kvodo machul. Si tu as manqué de respect au roi d'Israël, le roi doit te tuer. Il ne peut pas dire, c'est pas grave, laissez-le. Interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son kavodali qui a été tué, touché. C'est Dieu. Le représentant de Dieu, lui-même, n'est rien. Donc, quand un homme ne s'est pas levé devant le roi d'Israël, en réalité, il ne s'est pas levé devant Dieu. Donc, le roi n'a pas le droit de lui dire, c'est pas grave, laissez-le. C'est pas touché. Exactement. Exactement, il nous vole, il nous pique toutes nos idées, comme d'habitude, comme la chrétienté, comme l'Église, comme de tous les côtés. Okay. Encore une fois, nous sommes jumeaux des sages, il ne faut pas oublier. Yaakov et Esav sont jumeaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés à reconnaître les choses. Même le père peut se tromper. Il se frappe. Okay. Entre guillemets, okay. Et vouloir donner les brachot à l'un plutôt qu'à l'autre. Et dire assis là-bas dans la paroisse cette semaine, jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne savait même pas qui est l'un, qui est l'autre, c'est les mêmes. C'est la même issue là. Il y a encore ça. Nous, dans notre idée, ça, c'est une horreur, c'est. Non, c'est pas la issue là. Ça veut dire que les choses sont à mettre en bureau, à trier. Tout est à trier. C'est un grand travail de tri. Comme dans ce monde, pour trier.
Comment je peux savoir que ce Meller, c'est...
Alors, le Meller d'Israël, il a un avis à côté. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut un prophète. Donc, quand il y a un roi, il y a un prophète, automatiquement. Qui le dit, le prochain roi?
Machir.
Meller, pas Machir. Donc, à côté de lui, il y a un avis. Donc, le prophète peut me dire, ne vous inquiétez pas, vous ne vous plantez pas celui. C'est tout. Comment on choisit David Améler? C'est Shmuel à Navi, le prophète Shmuel, qui va venir dire à son père, Ishaï, j'ai reçu de venir dans cette maison, Dieu m'a dit, je suis prophète, que dans cette maison, il y a le nouveau roi d'Israël. Et donc Ishaï, il lui présente tous ses enfants, il y a plein d'enfants. Il dit non, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Il a un texte. Il a un verre d'huile qui pose sur la table, et ça, quand il y a un gosse qui arrive, des fils de Ishaï, lui ne bouge pas. Et lui, il a une prophétie qui lui dit que quand l'enfant, le vrai, va venir, lui, il va monter. C'est divin, c'est tout. Alors quand il finit tout à l'équipe, il dit, dis-moi, tu n'as pas un autre fils? Il dit non. Il dit, ah oui, il y en a un, mais bon, c'est un Mishnachel, noir, Azvaot, il est paumé là-bas dans Aïtar, Aïtamar, Marcelli, Mishiruka, on ne sait pas d'où il vient. Il y a plein de doutes, on ne sait même pas si c'est mon fils, enfin, une embrouille totale. Il dit non, amène-le, moi, on m'a dit que c'était ici. Et donc David rentre, et dit non. Il dit c'est lui. Mais comment c'est lui? Il veut sortir. Ah, c'est lui le roi d'Israël. Donc encore une fois, le roi d'Israël est nommé par un prophète. C'est une prophétie. Donc c'est sûr qu'il est le vrai. Après, il a le libre arbitre de savoir faire les choses, machin, de. Il y a eu des rois qui ont fait des dégâts. Okay? Mais il est là. Et même les dégâts qu'il fait, il y a une certaine conduite qui amène le peuple à une certaine direction. D'une manière générale, c'est Dieu qui dirige le tout, c'est ce que tu as pensé. C'est-à-dire, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas une direction, il y a un bas là-bas, il y a un propriétaire. Et c'est lui qui dirige tout ce que nous faisons ici. Et tous ceux qui dépriment aujourd'hui sont ceux qui oublient que l'histoire est dirigée par ce maître de la maison. Ils ont l'impression que, oh là là, regarde ce qu'il a dit, où le maître encore, comment on va devenir, alors qu'il va faire ci, alors qu'il va faire ça, on est dans la liste totale. Ils oublient que c'est Dieu le patron et qui dirige les choses. Alors même toutes les bêtises qu'on va faire, malgré toutes nos bêtises en avant, celui qui ne voit pas ça, il y a d'autres. Il y a 60 ans de là, combien de gens on était ici, mes frères? Regardez la différence, on est aujourd'hui bien à 6 millions de vies. Vous savez que nous sommes la majorité des juifs du monde, en Israël maintenant, depuis quelques mois. C'est-à-dire que ça a basculé. La majorité du peuple d'Israël se trouve sur sa terre. Et si tu ne vois pas ça, c'est aveugle. Tu ne vois pas qu'on est en train de nous approcher de la Géoula, de la délivrance d'Israël. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot et d'études de Torah depuis la création du monde. Tu vois pas ça? C'est aveugle là-bas. On est en plein déoula, on est en plein processus de délivrance d'Israël. C'est très proche. Toutes ces choses-là, elles vont marcher. Vont marcher. T'as déjà vu des marchés comme ça dans le monde? Des merveilles de fruits, des millions et des millions de fruits, de pas, en abondance, tout ça. Tout ça, il faut reconnaître, il faut remercier Dieu. Si tu ne sais pas remercier pour ces choses simples, va de temps en temps au souk, au marché, va à Ben Yehuda. Et rien que regarde les prix. Si tu ne fais rien du tout, c'est qu'il y a un problème. Normalement, en voyant ça, tu dois pleurer. D'émotion. De savoir que Kadosh Baruch Hu est en train de dévoiler sa grande lumière en Israël, et ça s'habille même dans les fruits. Tiens, l'année prochaine, après Rosh Hashanah, ça va être l'année de la Shmita. Prochainement. Et ça veut dire quoi la Shmita? Ça veut dire que Dieu va venir s'habiller dans la tomate. Il va pousser dans la terre. À tel point que la tomate, quand je vais la prendre, ça va être codée. Ça veut dire codée. Comment une tomate de l'Israël, un concombre de l'Israël, ça va devenir codé? Il faut un truc spécial. Il faut faire très attention avec le fruit de la Shmita. Vous allez étudier derrière la porte. L'année prochaine, c'est compliqué. Alors la solution bidon, c'est de dire, bon, grâce à Dieu, j'ai aucun problème avec la Shmita. Moi, je décide de nous de la maison. Dieu nous en préserve. C'est ça ton truc. Ou alors, non, j'ai une responsabilité, il y a du codé. Et je dois me mettre au niveau. Je dois savoir comment faire. Et donc j'accepte de vivre dans un terrain où la tomate va être codée. Tu sais ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. C'est en train de manger du codé. C'est un autre niveau. On termine. Juste ça. Donc tout touche Israël négativement, c'est extérieurement. On ne peut pas lui pénétrer à l'intérieur de lui-même. Qui bénéficie ou titre, parce qu'à l'intérieur, dans le point essentiel qui est en lui, il y a ce dit, c'est bas, qui est le fondement même d'Israël, même mais les in codes sont tout le temps remplis de codes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Israël olam nata betochem. Une vie éternelle, il l'a implanté, il l'a mis en nous, placé en nous, à l'intérieur de nous. Israël hem, parce qu'Israël est, comme la définition de Jérémie, au chapitre 2, verset 3, récite que vous ato le prémisse de sa semence. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu a planté ce monde, ce qu'il a recueilli en premier, quand la semence a poussé, c'est Israël. C'est comme quand tu rentres.
Pourquoi c'est bon?
Parce que c'est la tevoie. La tevoie, c'est tout ce qu'il a, ce qu'il va ramasser. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est pas la semence?
Non.
La récolte, c'est ça. Je me manque des mots. Je ne suis pas français, je suis né en Israël. Donc tout le français que je parle, c'est un français que j'ai appris comme ça. Rectifiez-moi dans mon. D'accord, ok. Alors rectifiez-moi parce que mon français n'est pas un français de d'un français, okay. C'est pas ma langue natale.
C'est
ma langue maternelle.
C'est pas ce que c'est
aussi. D'accord. Alors là, la récolte. Récite-vous à toi, le début de ta récolte. D'accord? C'est vous. Et à cause de ça, grâce à ça, ta volaem kaparatam, leur kapara vient de ce degré-là. Qu'est-ce que c'est kapara? Kapara, c'est quand on enlève la salissure et que le bien apparaît. Une chemise qui s'est salie, tu ne la jettes pas. Tu la mets dans la machine, il n'y a que la salissure qui est sortie. Sous-entendu que la salissure n'est pas entrée dans les. Dans la matière elle-même, elle était superficielle. Parce qu'elle rentre dans la matière elle-même, je dis, mais c'est négatif. Kapara veut dire enlever la salissure. L'homme a tout pourri. Le jour d'enlever les salissures. Ça veut dire quoi? Sous-entendu que dedans, c'est toujours propre. Sinon, si on se fait enlever la salissure, ça ne sert à rien. Donc, Israël est toujours propre. Et toutes nos erreurs sont des erreurs superficielles qu'il faut apprendre à nettoyer. Et nous apprenons à nettoyer. C'est à clair. Atkan et Ayom.
C'est ça.
C'est la rabat.